Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Eric Deschmaker, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vous êtes présent en Nouvelle-Calédonie pour quelques jours et que vous avez donné la semaine dernière une conférence qui a suscité un certain nombre de réactions parce que vous développez une analyse originale, assez iconoclaste sans vouloir être désagréable, voire provocatrice sur la Nouvelle-Calédonie. Alors avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler que vous êtes universitaire, vous êtes professeur de droit à la fois privé et public, vous avez les deux spécialités, c'est un domaine large, que vous êtes français, mais que vous vivez à Melbourne et que vous vous intéressez à la Nouvelle-Calédonie comme français vivant dans le Pacifique. À ce titre, et vous ne vous en cachez pas, c'est le moins que l'on puisse dire, vous souhaitez que la Calédonie reste française. Il faut aussi préciser, c'est important, que vous n'avez aucune implication directe en Nouvelle-Calédonie, vous n'êtes le conseiller de personne, vous n'avez aucune ambition politique. Ceci dit, pour éviter toute élucubration ou tout fantasme vous concernant, en réalité, vous vous passionnez pour la Nouvelle-Calédonie et vous proposez un regard extérieur sur son évolution, sur son histoire récente. C'est bien ça, la présentation, le contexte vous satisfait ?
Oui, oui. Enfin, c'est, alors que je confirme que je n'ai pas d'ambition politique pour rassurer ceux qui pourraient m'en soupçonner. Dire que je n'ai aucune implication sur le territoire, ça, j'ai envie de dire qu'au contraire, j'essaye d'avoir une implication ici dans l'espoir de pouvoir être utile. C'est-à-dire, depuis que je suis arrivé, je rencontre autant que possible les entrepreneurs de l'île, les intellectuels, des juristes, des journalistes, des politiques actuellement en mandat, des anciens hommes politiques, des hommes d'église. J'essaye d'aller à la rencontre des milieux mélanésiens, que ce soit ici à Nouméa ou sur leur terre. Tous les gens qui viennent me parler dans la rue, ce qui me touche toujours beaucoup. Ce que j'essaye de faire, c'est vraiment deux choses. D'abord, de redonner un peu d'espoir aux gens dans le camp de la France qui se sentent un peu abandonnés ou perdus, qui ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive après les trois référendums qu'ils ont gagnés. Donc, j'essaie de leur rappeler qu'ils ont gagné, que le camp de la France a d'excellentes cartes juridiques en main. Donc j'essaye de leur rappeler quelques grands principes juridiques, mais je crois surtout de leur montrer qu'il y a des gens en dehors de cet archipel qui s'y intéressent et qui les aiment.
On vous avait déjà reçu il y a quelques temps ici dans ce studio. Rappelez-nous comment vous avez été amené à vous intéresser à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a très peu de gens en fait qui s'y intéressent vraiment, il y a de moins en moins en métropole. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous intéresser à ce qui se passe
ici ?
Oui,
alors, comme je vous l'avais dit, quand vous m'aviez effectivement reçu en octobre, je crois que c'est deux choses. C'est un intérêt très ancien d'un Français fier de son histoire, de son pays, de tout son pays. Ce que j'aime appeler la France 13 fuseaux horaires. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et est venu se greffer le fait qu'en 2017, j'ai moi-même débarqué dans la région Pacifique, à Melbourne, quasiment au moment où la Calédonie a commencé à s'engager dans ce processus référendaire. À l'époque, pour moi, l'accord de Nouméa, c'était de vieux souvenirs. Et le premier référendum a été un choc. Et à partir de là, je crois que j'ai compris la nécessité, j'ai à la fois eu le désir et compris la nécessité de m'engager, car encore une fois, tellement peu de gens le font. Et précisément, ce que j'essaye de faire ici et ailleurs, mais ici aussi, c'est de fédérer les intelligences et les énergies au service de la Calédonie française, et d'ailleurs de manière plus générale de l'outre-mer français, car je crois que c'est à ce niveau-là que l'attaque et la défense se font. C'est-à-dire nous payons le fait que depuis des décennies, nous sommes gouvernés par des gens qui fondamentalement ne comprennent plus cette France outre-mer, ne la connaissent pas, ne l'aiment pas, ne comprennent pas ce que ces confettis d'empire font encore en France. Ils sont trop petits pour la France. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire fédérer les gens qui veulent se battre pour elle, pour le dire de manière provocatrice, de créer une sorte de contre-groupe de Bakou, simplement d'un peu meilleure qualité, on peut l'espérer, mais de fédérer tous ceux qui veulent faire vivre et illustrer et prospérer ces territoires qui sont le plus grand atout de puissance de la France, j'en suis persuadé.
Et alors vous exprimez notamment, c'est comme ça d'ailleurs que Moi, que je vous ai découvert, et je crois un certain nombre de Calédoniens, vous exprimez dans des tribunes, dans des papiers, dans un certain nombre de revues, Le Figaro ou des revues plus spécialisées sur la géopolitique.
Oui, je crois que c'est absolument fondamental. C'est quelque chose qui a vraiment changé depuis l'accord de Nouméa, c'est-à-dire la perspective qu'a la France sur ses territoires. L'Indo-Pacifique, le mot n'avait même pas été inventé à l'époque. C'est quelque chose qui s'est imposé sur la scène politique assez brutalement et rapidement dans les années 2010. C'est une occasion extraordinaire pour la Nouvelle-Calédonie, mais pas que, de vendre, dans un sens non péjoratif du terme, c'est-à-dire tout ce que cette terre peut apporter à la France. La difficulté, c'est que je crois nos gouvernants n'ont pas encore... Ils ont saisi l'enjeu de manière assez abstraite, mais ils ont besoin d'être beaucoup aidés pour en comprendre les implications. Et notamment que si on veut que les territoires français du Pacifique le demeurent, prospèrent, soient un atout de puissance, sorte de projection de la France dans le Pacifique, eh bien, il va falloir changer un certain nombre de choses.
Alors vous écrivez et puis vous donnez des conférences, en tout cas vous en avez donné une la semaine dernière au Méridien, une conférence qui était intitulée « La situation ainsi créée ». C'est une allusion bien sûr à la fameuse phrase de l'accord de Nouméa. Et vous avez, ce que vous avez développé notamment dans cette conférence, vous avez un regard très critique quand même sur l'accord de Nouméa. Alors qu'aujourd'hui on dit que c'est un peu le socle, c'est le socle du prochain bond qui doit être fait par la Calédonie.
Oui, et je crois que c'est là qu'il est utile d'avoir un regard extérieur. C'est vrai que je regarde l'accord de Nouméa avec les yeux d'un juriste formé au droit constitutionnel à Paris. Il ne le regarde pas à travers le prisme de la politique de l'île et sa permet peut-être de voir certaines choses de manière plus claire. Il me paraît évident que l'accord de Nouméa, il suffit de le lire, a créé un mécano institutionnel qui est non seulement d'une complexité insoutenable pour un territoire aussi petit, mais que surtout, c'est un accord qui n'a de sens que dans la perspective d'une indépendance. C'est-à-dire le choix à la fin n'était pas un véritable choix, c'était un choix entre la bonne réponse qui était le oui et la mauvaise réponse qui était le non. Et c'est précisément parce que la réponse donnée ne correspond pas à la logique de cet accord de Nouméa qui crée un proto-État qui se dirige vers l'indépendance, qui aspire à être indépendant, qui crie comme l'enfant sorti du ventre de sa mère. C'est bien pour ça qu'on se retrouve avec une situation aussi difficile, parce que on a toujours ce proto-État sur les bras et il aspire toujours par sa logique même à devenir indépendant, mais il ne le peut pas.
Et pourtant, en 98, quand il a été signé, il y a bien un camp, le camp des partisans dans la France, qui l'a signé en pensant que, à l'issue de ce processus, la Calédonie resterait dans la France.
Alors là, c'est compliqué. Je n'étais pas là. J'entends tellement de choses différentes sur ce que les gens pensaient, espéraient, ceux qui pensaient que la démographie, ceux qui pensaient qu'on allait les battre dans les urnes, ceux qui pensaient qu'on n'irait jamais au référendum. Enfin, c'est... En un sens, ça n'est pas la question que je me pose. Nous sommes en 2025, nous avons cette situation sur les bras qui fait que pour l'instant, donc, la Nouvelle-Calédonie n'est plus censée avoir vocation à devenir indépendante au terme d'un processus d'autodétermination, mais on se retrouve toujours avec une citoyenneté calédonienne qui est donc une citoyenneté régionale à l'intérieur de la France, qui est une chose que les juristes ne parviennent même pas à comprendre.
Vous avez parlé de monstruosité. Mais
c'est une monstruosité juridique. Comme tu vois, le droit peut, avec des mots, le droit peut créer tout ce qu'il veut. Il peut écrire des choses sur le papier. Ensuite, ces choses ont des implications. Je ne sais pas comment des gens qui seraient regardés comme des citoyens calédoniens vont pouvoir continuer à expliquer. Mais en fait, si, ils sont français. Et que la Nouvelle-Calédonie peut avoir des députés au Parlement national, alors même que ce Parlement national ne peut plus légiférer pour la Nouvelle-Calédonie sur tout un certain nombre de sujets. L'accord de Nouméa a créé un deuxième parlement que l'on peut qualifier de souverain, même si c'est sur un territoire et dans des domaines limités. Il y a donc maintenant deux parlements français.
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est un parlement.
Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est pas okay. D'ailleurs, que certains voudraient renommer le parlement. Oui, je l'appelle parlement. Il est un parlement. Il vote la loi. Et donc, on a un parlement pour 99,7% de la population sur l'essentiel des sujets à Paris, et un autre pour 0,3% de la population à Nouméa. C'est ça qu'a créé l'accord de Nouméa, et il faut affronter cette réalité en face.
Un accord qui devait conduire à l'indépendance, mais le vote des Calédoniens fait que ça n'a pas été le cas. C'est là où se pose la fameuse question, le fameux contexte de la situation ainsi créée. Est-ce qu'il est possible de faire demi-tour ? C'est un peu le nœud du problème aujourd'hui. On voit qu'on a de la peine à sortir de cet accord.
Alors oui, on peut faire un demi-tour. Rien n'est jamais définitif, même pas la fumeuse irréversibilité constitutionnellement garantie, un doux syllabe dont aime à se gargariser M. Chauchat. C'est ce que le constituant a fait. Le constituant peut toujours le défaire. Nous ne sommes pas liés par ce qu'une autre génération a décidé. En revanche, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il faut faire demi-tour. C'est-à-dire, vous avez une sorte de gros navire qui va dans une direction, qui est la sortie du territoire. Vous pouvez arrêter les moteurs, il va continuer à dériver. Et donc, il continue à dériver vers la sortie. Donc, si vous voulez l'empêcher, il n'y a pas d'autre choix que de faire demi-tour. Alors, ce n'est pas facile. Ça ne veut pas nécessairement dire tout défaire, évidemment, mais ça veut dire changer de logiciel et de logique. Ne plus accepter cette logique de l'accord de Nouméa, qui est encore une fois de créer progressivement un État qui, en se développant, deviendra indépendant et naturellement partira.
Quand vous dites que rien n'est irréversible, c'est-à-dire, on le dit souvent pour les transferts de compétences, ceux qui ont été transférés pendant la période de l'accord de Nouméa, justement, sont aujourd'hui réversibles. Ça vous semble pouvoir être remis en cause, c'est-à-dire que certaines compétences pourraient être rétrocédées aujourd'hui
Oui, alors je vous disais, il y a la dimension juridique et la dimension politique, donc juridiquement, il n'y a aucune difficulté. Politiquement, évidemment, c'est difficile, ça fait très paternaliste de dire on a donné des compétences à la Nouvelle-Calédonie, on les reprend, mais ça, je crois qu'il faut que les Calédoniens mettraient l'éventuel orgueil mal placé qu'ils auraient à se dire, on peut s'occuper de nous-mêmes, merci. 280 000 personnes, c'est très très difficile, je ne vois pas l'intérêt pour beaucoup de sujets de vouloir se mêler, de notamment faire la loi. Donc oui, je crois qu'il faut faire un audit de ces différentes compétences. Des compétences n'ont pas non plus à être exclusives, notamment des compétences législatives. Ça pose des problèmes considérables. Donc, oui, on peut faire demi-tour, il faut y réfléchir. La difficulté, c'est que ce travail de réflexion n'a pas réellement été fait. Encore moins, et ça c'est un sujet qui moi m'intéresse beaucoup, dans le cadre d'une réflexion plus générale sur l'outre-mer. Ce que j'aimerais éviter, comme je l'ai développé dans cette conférence, c'est que la Nouvelle-Calédonie ne reste à long terme trop différente des autres, une exception, une anomalie, parce que dans ce cas, c'est encore vrai, si elle est une anomalie dans le cadre constitutionnel français, ça a des implications qui me semblent graves à long terme.
Alors, vous le savez, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, est attendu sur le territoire pour son troisième séjour d'ici quelques jours. Il doit arriver mardi. Il a déjà posé sur la table un projet d'accord politique. Vous l'avez lu, même si c'est encore qu'un document de travail, il va être travaillé, retravaillé, modifié, amendé. Est-ce que ça peut être une solution ? Est-ce que c'est un demi-tour, on n'en a pas l'impression ? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce document ?
Alors, effectivement, j'ai lu le document qui est sorti, comme sans doute la moitié de l'île.
Mais il était rendu public, oui.
Alors, sa logique est très claire, et c'est exactement la même logique que celle du FLNKS. C'est-à-dire, tout ce qui, depuis 35 ans, a été concédé au camp de l'indépendance, on va dire, reste acquis par principe, c'est ce que certains appelleraient le socle de l'accord de Nouméa, et ben le reste, c'est-à-dire ce qui est encore français, alors ça, on va en discuter. Et donc, on va couper la poire en deux, puisque l'île est coupée en deux moitiés, et donc, on va... c'est-à-dire, dans la logique de M. Valls, on ne peut pas aller tout de suite à l'indépendance parce que les trois non, mais c'est à peu près la seule chose que ça empêche dans son logiciel. On va donc continuer sa fameuse trajectoire et donc on va faire de nouveaux transferts de compétences. Enfin, comme si la Nouvelle-Calédonie pouvait assumer de nouvelles compétences alors qu'elle a déjà tant de mal à exercer celles qu'elle est censée exercer. On maintient à quelque éventuellement finement prêt tout ce mécano institutionnel de l'accord de Nouméa, et puis on aura à nouveau un référendum dans X années. Autrement dit, c'est l'accord de Nouméa en encore pire. C'est-à-dire qu'on recommence un processus d'autodétermination, on part, le point de départ, ce sera encore moins de France qu'à l'heure actuelle, et là, bon, bah, je crois qu'il espère qu'au final, les Calédoniens finiront par céder, d'autant que la CCAT a quelques idées sur la manière d'encourager les gens à faire le bon choix, par exemple, en faisant leur valise.
Alors, on est bien d'accord, pour l'instant, c'est un document de travail. Il n'est pas définitif, loin de là. Il n'a pas encore été... Enfin, il n'est pas signé. On ne sait pas si un accord va être trouvé dans les prochains jours. On en reparlera. Mais le premier point de ce document, c'est un nouveau partage de souveraineté avec la France. C'est quoi ce partage de souveraineté? Et est-ce que les compétences régaliennes, puisque c'est en gros les seules qui restent aujourd'hui à l'État, à la France, est-ce que les compétences régaliennes peuvent être partagées? Est-ce que c'est envisageable?
Alors, partage de souveraineté... Ça ne veut rien dire. Bon, c'est un slogan parmi d'autres qui circule depuis des décennies parce qu'on pense que ça va faire plaisir aux gens. Bon, c'est un élément de langage dans la tradition occidentale, au moins depuis le traité de Westphalie. La souveraineté se conçoit comme unitaire. On est souverain ou on ne l'est pas. La souveraineté ne peut pas se partager. En revanche... Il ne faut pas nécessairement faire une fixation sur ce concept de compétence régalienne. C'est un concept assez flou de ce qu'est une compétence royale, un d'État. En fait, certaines compétences dites régaliennes sont déjà partagées. Le meilleur exemple, c'est la police, qui est considérée, enfin, c'est l'incarnation même du pouvoir de l'État. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie comme en métropole, vous avez des polices municipales. Et ça ne pose aucun problème parce que les communes, c'est aussi l'État. L'État, ça n'est pas la même chose que l'État central. Donc, il est possible de participer à l'exercice de certaines fonctions que l'on dit régaliennes tout en restant dans la France. Donc, c'est pas forcément là. C'est pas, il faut pas se cabrer sur régalien par régalien.
Alors, le document que vous faisiez allusion évoque l'exercice du droit à l'autodétermination. Là, c'est un sujet sur lequel j'aime bien vous entendre parce que vous êtes pratiquement le seul qui affirme qu'il n'y a pas de droit inaliénable à l'autodétermination, alors que tout le monde dit que c'est un fait, c'est inscrit dans la Constitution, on ne peut pas en discuter.
Oui, alors effectivement, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit par ailleurs un certain nombre de fois. Effectivement, il n'y a pas de droit unilatéral à la sécession de la République, d'aucune partie de la République, et encore moins du nébuleux peuple de Nouvelle-Calédonie ou peuple calédonien, qui est une construction purement administrative. C'est un ramassis administratif de gens qui peuvent cocher une des cases leur permettant de s'inscrire sur une liste électorale. Je suis en un sens heureux que le gouvernement insiste parce qu'il va perdre cette bataille. Et là, on va voir, je crois, à la fois... la médiocrité intellectuelle, mais aussi surtout le degré d'idéologie des gens qui sont aux manettes, et qui d'ailleurs, enfin, c'est une génération qui était déjà là dans le cabinet de Louis Le Pincec, ça nous ramène quand même assez longtemps en arrière.
Les années 88.
Je crois que c'était après, après l'accord de Matignon, où il est resté 4 ans, je crois. Mais,
voilà. La loi fondamentale, ça aussi, c'est une notion, alors qu'il a en revanche été jusque-là jamais utilisée dans tout le jargon autour de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Le document proposé parle d'une loi fondamentale. C'est une notion qui est très sensible, qui a déjà suscité un certain nombre de réactions. On parle aussi de compétence, de la compétence, des termes qui font peur à beaucoup de gens. C'est quoi les conséquences en fait, de ces expressions? Comment ça se traduit concrètement, loi fondamentale, compétence de la compétence?
Alors, bon, c'est compliqué à expliquer en deux mots, mais en gros, loi fondamentale veut dire constitution. Constitution veut dire État. Donc, la loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie, c'est la formalisation d'un État calédonien. À l'intérieur, en tout cas, on peut le croire, de l'État français. Le problème, c'est que ça, dans un système fédéral, la coexistence de plusieurs États à l'intérieur d'une même entité, comme en Australie, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Dans un système profondément unitaire comme le droit français, là encore, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on formaliserait ce qui est en un sens déjà le cas, c'est-à-dire un corps étranger au sein du droit français. Et ce corps étranger, ben ça c'est de la biologie assez élémentaire, le corps principal va essayer de l'expulser assez naturellement. Donc c'est vraiment, c'est formaliser encore un processus qui à mon avis mène inéluctablement à la sortie de ce petit état du grand état. Ça, c'est pour la loi fondamentale. Compétence de la compétence, alors là encore, c'est une expression utilisée de manière technique par les juristes, notamment dans le contexte du droit de l'Union européenne. La manière dont c'est compris par tout le monde, par tout juriste, c'est la capacité à décider par soi-même de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, par exemple de ce qu'on délègue à quelqu'un d'autre, comme l'Union européenne. C'est donc assez strictement un synonyme de souveraineté. Et souverain, l'entité souveraine, l'entité politique qui a la compétence de sa compétence, qui détermine par elle-même ce qu'elle est. Alors, la difficulté ici, c'est que ça ne peut pas être ce que pense, ce que veut dire M. Valls ou M. Gomes, à qui il a, je crois, repris cette expression. Je ne sais pas très bien ce que eux entendent. Je crois que c'est quelque chose comme une capacité à changer certaines des règles d'organisation ici depuis l'intérieur. Mais il faut toujours se méfier de ces grands mots. Il faut éviter de jouer au savant en utilisant des concepts techniques qui nous reviendront à la figure nécessairement. C'est-à-dire, si on inscrit cette idée, ça ne va pas rendre la Nouvelle-Calédonie indépendante tout de suite, mais ça, encore une fois, il n'y a pas de danger. Mais je ne réponds pas de l'interprétation qu'on fera de ces termes dans 10 ans, et puis de l'interprétation. Le droit, c'est ça, c'est de l'interprétation, d'interprétation, d'interprétation, dans 20 ans. Donc là encore, c'est très dangereux de mettre dans des textes, notamment des textes très haut placés, des concepts pareils.
Alors, toujours dans ce document proposé par Manuel Valls, on parle de la gouvernance, c'est tout un chapitre, et globalement, le seul changement vraiment marquant, ce serait des compétences accrues aux provinces, avec notamment la compétence fiscale qui serait dévolue au fiscal, qui serait dévolue aux provinces. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable?
Oui, va dire tout est possible. Alors la chose est compliquée, mais ça il faudrait réfléchir aux détails. Mais je crois que les loyalistes ont raison de vouloir récupérer les leviers de manœuvre pour sauver ce qui peut l'être dans le cadre institutionnel actuel, c'est-à-dire en gros l'activité économique sur le Grand Nouméa. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas ça. Comme souvent, ce qui m'inquiète dans un texte, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire, en creux, ce qu'on comprend, c'est que c'est la seule chose qui va changer et que donc tout le reste demeure en l'état. Donc notre proto-État qui se dirige vers la sortie va continuer, si on en reste à de simples ajustements de cette nature, à se diriger vers la sortie. Alors cette fois-ci, ce sera avec un taux d'imposition différentiel entre Koné et le Mont d'Or, mais la direction restera la même.
Alors vous parlez de ce proto-État. La Calédonie est une exception, voire une anomalie. Est-ce que forcément, de toute façon, au point où on en est, le futur statut, la solution institutionnelle ne sera pas de toute façon originale, imaginative? Est-ce qu'elle ne devra pas bousculer le droit, puisque c'est ce qu'a fait depuis 88, en fait?
À voir, ça dépend évidemment, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des réalités politiques, mais ça dépend aussi du temps qu'on se donne pour préparer les choses. La difficulté, c'est encore une fois, on négocie dans l'urgence en ayant peu préparé l'affaire. C'est à part dire le projet, c'est non à l'indépendance, mais précisément, la question reste quoi? Qu'est-ce qu'on fait de cet accord de Nouméa? Jusqu'où est-on prêt à remonter dans le temps et à refuser d'admettre, de tenir pour acquis un certain nombre de choses? Ça dépend aussi, voilà, de ce qui à Paris pourrait être intéressé par l'idée de réfléchir sérieusement à un nouveau statut général de l'outre-mer. C'est une idée que j'essaye de défendre, l'idée d'un type unique de collectivité ultramarine qui pourrait jouir d'une autonomie à la carte. Il y aurait des principes généraux jusqu'à tel point vous pouvez être autonome et chacun déciderait de la mesure dans laquelle il voudrait l'être. Pour moi, la solution idéale, ce serait une Nouvelle-Calédonie qui soit à une extrémité de ce spectre d'autonomie dans l'outre-mer, mais qui réponde encore à des principes généraux. Ensuite, effectivement, ça n'est pas facile parce que, oui, ça fait 27 ans, pour ne pas dire davantage, que l'on a accepté, on a installé l'idée selon laquelle rien ici ne se passe comme ailleurs.
C'est la question que posent tous les Calédoniens, que se posent tous les Calédoniens aujourd'hui, à quelques jours de l'arrivée de Manuel Valls, qui a dit qu'il venait ici pour obtenir un accord global ou un compromis global. Est-ce qu'un accord, selon vous, vous connaissez, même si vous n'êtes pas impliqué, on le disait tout à l'heure, vous connaissez le paysage politique calédonien, vous connaissez les positions des uns et des autres. Est-ce qu'un accord est possible, selon vous, dans les jours qui viennent, puisque Manuel Valls va passer 10 jours en Calédonie, et est-ce qu'un accord est souhaitable en l'état actuel et dans le contexte actuel?
Alors, possible, donc je n'ai pas d'informations particulières, mais si vous regardez le texte et sa logique, c'est-à-dire, on peut amender un texte, mais on ne peut pas, avec des amendements, changer sa structure fondamentale, sa direction, sa logique. Quand je lis cela, je me dis que c'est un texte qui ne peut pas être accepté à la fois par les vrais indépendantistes et par les vrais partisans de la France. Donc ce qu'il reste, c'est ceux qui ne croient à rien. Mais j'ai une poignée de main entre juste Monsieur Valls et Monsieur Gomes, ce serait un petit peu chétif sur la photo. De toute façon, la logique de l'accord, c'est que tous le signent. Donc, je vois assez mal comment ça pourrait être le cas. Ensuite, est-ce que c'est souhaitable ? Là, le sentiment que j'ai vraiment à écouter les gens et à leur parler, c'est qu'on a affaire à un transfert, au sens psychologique du terme, c'est-à-dire qu'on investit l'accord ou l'espoir d'un accord de vertu quasiment magique. C'est-à-dire l'accord devient synonyme de retour à la paix, à la prospérité, une forme de stabilité, la fin de ces souffrances. Mais aucun accord juridique sur le nombre de points de citoyenneté pour devenir calédonien ou sur le taux d'imposition, l'assiette fiscale à connaître ou au Mont d'Or ne va ramener la paix civile. Ça, c'est quelque chose qui se joue dans les cœurs et dans les esprits. Et je ne crois même pas que ça ramènera nécessairement une visibilité. C'est un argument que j'entends beaucoup. Oui, Eric, je vois bien que ça n'est pas très appétissant, mais au moins on saura pour X années où on va. Mais ça suppose que les gens tiennent leur parole. Ça suppose que M. Bichou, dont la libération fera sans doute partie du package global, se sente tenu par la parole, que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre. Or, la réalité, me semble-t-il, c'est que, accord ou pas accord, on n'est pas à l'abri d'un nouveau 13 mai. Et ça, c'est un véritable problème auquel il faut se confronter très directement. Mais encore une fois, c'est une question différente. Pour l'accord, il me semble qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses, parce qu'on voudrait que ce soit le dernier, que ce soit définitif, qu'on ne recommence pas dans une ou deux décennies. Et encore une fois, ça n'est pas facile. La paix et la concorde, encore une fois, c'est fondamental, c'est absolument fondamental, mais c'est une question distincte. C'est pas une question juridique. Et d'ailleurs, je suis même pas persuadé que ce soit une question politique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une responsabilité que l'on peut, qu'on doit donner aux responsables politiques de faire la paix pour nous. C'est une responsabilité écrasante qu'il ne serait pas juste de mettre sur leur épaule. C'est pas une poignée de main qu'il nous faut. Elle a déjà eu lieu. On a vu où elle nous a mené. Ce sont des milliers ou des dizaines de milliers de poignées de main. C'est la paix, c'est vous et moi qui la ferons, qui ne la ferons pas.
Alors vous dites malgré tout des choses qui sont assez inquiétantes avec ce proto-État en formation qui voudrait être expulsé par l'État central, ce chemin qui semble inéluctable si on ne fait pas demi-tour. Et malgré tout, et c'est aussi, entendu dans la conférence que vous avez donnée la semaine dernière, vous restez optimiste sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'est-ce qui fonde cet optimisme et comment est-ce que cet optimisme et comment est-ce que vous voyez l'avenir ?
Absolument, je suis fondamentalement optimiste pour tout un certain nombre de raisons. On n'aurait pas le temps de toutes les évoquer aujourd'hui. Il y en a une dont j'aimerais parler parce qu'on en parle peu alors qu'elle me paraît fondamentale, c'est que notre cause est juste. En face de nous, les indépendantistes, ou plus exactement leurs représentants plus ou moins autoproclamés, se battent pour un modèle autour duquel, dans lequel une ethnie est supérieure aux autres, leur indépendance est kanak et socialiste, les autres au mieux seront tolérés autour de cette ethnie principale, donc leur combat est profondément raciste. Nous nous battons, le camp de la France, nous nous battons pour tout le monde. Quand je défends et quand nous défendons la Nouvelle-Calédonie française, je défends la France tout entière, la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des communautés de Nouvelle-Calédonie, y compris bien sûr les Kanaks, qui étant les plus faibles, en tout cas sur le plan socio-économique, sont ceux qui auraient le plus à perdre de l'indépendance. Tu vois, c'est une chose, mais je la rappellerai jusqu'à ma mort. Si le drapeau français est abaissé sur le Haut-Saria, à quelques dizaines de mètres du studio où nous parlons, c'est la fin du monde kanak. Le drapeau français est la condition de la survie du monde kanak, la condition de la survie de leur culture dont ils sont si fiers. C'est nous qui leur avons permis de continuer à exister en tant que tels. Alors je sais qu'ils ont du mal à l'entendre ou en tout cas à l'accepter, mais l'argument est vrai, je crois qu'ils peuvent le comprendre. Le drapeau français est là pour tout le monde, il est là pour toutes les communautés, je ne me bats pas pour l'une contre l'autre, je me bats pour toutes sous un pavillon qui a été l'un des plus grands de l'histoire et dont nous pouvons tous être fiers, y compris les Kanaks, y compris les indépendantistes, c'est leur pavillon aussi.
Bien voilà qui va mettre un terme à ce magazine. Vous allez suivre bien sûr la visite de Manuel Valls, les déclarations ou les documents qui sortiront
dans,
à l'issue.
Dans toute la mesure du possible, oui.
Donc, nous aurons l'occasion de vous réentendre ou de vous lire. Merci en tout cas, Eric Bechemaeker, d'être venu dans ce magazine Transparence.
Merci à vous.